Il y a bien sûr l'algorithme qui est aussi présent sur Internet. C'est pour ça que j'ai eu l'envie d'utiliser un algorithme dans cette œuvre-là, pas juste de ramener des tweets. Mais vu que là, on baigne aussi dans l'algorithme sur les réseaux sociaux, j'avais envie d'utiliser l'algorithme pour mon œuvre. Mais c'était juste pour aussi avoir un élément en plus que juste moi qui fais le code. Je voulais vraiment avoir cet algorithme qui a cette ligne de code qui s'appelle math.random. Et c'est grâce à ça que ça se chamboule, que ça se mélange.
Qui êtes-vous au juste? À part la chanson, vous faites quoi dans la vie? On dit que vous êtes un brassin sans jupon.
Relaxé.
On aimerait tellement ça relaxer.
Au lieu de m'appeler artiste ou poète, je voudrais m'appeler Denise Boucher, petite entreprise.
Bonjour, je m'appelle Sidonie Gaulin, animatrice et réalisatrice de ce podcast. Les Impostures est un projet féministe qui donne la parole aux artistes pour parler du processus de création derrière un de leurs projets. Pour le 7e épisode de la saison 3, réalisé à Marseille, je suis dans les studios de la briqueterie avec l'artiste Joël Majdalani. Bonjour Joël.
Bonjour Sidonie.
Joël, tu es née à Beyrouth, au Liban, où tu as étudié en communication visuelle et en animation 2D à l'Académie libanaise des beaux-arts. Tu as ensuite travaillé pendant 3 ans en images de marque et direction artistique avant de venir poursuivre tes études à Marseille. Tu es actuellement finissante au Master de création numérique de Aix-Marseille Université. Tu travailles sur les nouvelles notions et valeurs apportées par la culture numérique. Tu t'intéresses aux questions d'auteur, d'appropriation, d'anonymat et des rapports texte-image. Tu rejoins l'équipe de l'association Alon, une association de création et de services d'art numérique. Tu y participes en apportant ton expertise en direction artistique, design et scénographie, notamment sur votre exposition « Dans l'intimité d'un jardin » qui était présentée ce printemps dans différents lieux de Marseille et dans laquelle une de tes œuvres était exposée. Mais avant de s'attarder à cette œuvre, je voudrais qu'on parle de Marseille. Comment tu ressens cette ville depuis que tu es arrivée ici? Est-ce que tu te sens chez toi? Comment tu, en tant qu'artiste aussi, comment tu vis la ville?
Alors, merci pour cette introduction. Et Marseille, j'aime bien la ville. Depuis que j'y suis arrivée, je me sens pas trop dépaysée. Il y a une petite ressemblance avec Beyrouth, je trouve, vite fait, bien sûr. Des fois, j'aime beaucoup Marseille, des fois moins. Ça dépend des journées et de comment je me sens ici. Aussi, j'aime beaucoup la mer, ce qui me rapproche plus de Beyrouth, puisque je vivais à côté de la mer aussi.
Beyrouth, est-ce que ça a le même rythme un peu chaotique que Marseille?
Et en ce moment, oui, ça a un rythme un peu chaotique aussi. Mais je pense que le plus important pour moi, c'est que ça soit à côté de la mer. Vu que j'y suis habituée depuis mon enfance.
Toi, tu es étudiante en art numérique. Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi comme scène à Beyrouth?
Alors, la scène artistique à Beyrouth, elle est un peu différente de celle de Marseille ou de la France en général, je trouve. Et pour ce qui est art numérique, il y a plus ici qu'il y aura à Beyrouth, ça c'est sûr.
Donc, c'est pour ça aussi que tu es venue à Marseille pour la scène en art numérique?
Oui, oui, c'est exactement ça. Mais aussi, en général, la scène artistique, elle est assez petite. Et je trouve qu'ici, elle est plus élaborée et plus profondément explorée aussi. Pas que numériquement, mais aussi, bien sûr, en art numérique, ça n'a rien à voir. Même si ça commence un peu avec quelques œuvres d'artistes libanais qui ont fait des études à l'étranger et puis aussi ils exposent à Beyrouth des fois, je suis en train de suivre un peu. Il y a quelques œuvres qui sont numériques, mais je pense que ça reste très très nouveau et c'est pour ça que j'aimerais continuer dans ça pour l'instant en France.
Parce qu'ici, il y a la Biennale d'art numérique qui avait lieu l'an dernier à La Friche. Ou est-ce que c'est vraiment que des œuvres numériques? Donc, ça, c'est peut-être un... Ouais, ça veut dire que Marseille, c'est quand même un peu une plaque tournante pour cette forme d'art-là. L'année dernière, le thème, c'était la nuit. Puis là, je suis allée voir. Et le thème pour, pas cet automne, mais l'an prochain, c'est le plaisir.
Ah, donc, c'est bien ça.
Ouais.
Ça peut être différentes formes de plaisir.
Oui, exact. Donc, à suivre pour ça. Pour ce qui est des choix musicaux, à chaque artiste que je reçois au podcast, j'ai une carte blanche pour deux choix musicaux. Mm-hmm. Dans ton cas, tu as choisi une chanson que tu associes à Beyrouth et une autre que tu associes à Marseille. On va commencer par Marseille, puisqu'on vient aussi d'en parler. Est-ce que tu peux nous présenter ton choix?
Bien sûr, oui. Alors, j'ai fait un choix, j'ai choisi Jul, l'artiste marseillais bien aimé par les Marseillais, bien sûr, et par nous tous, pas tous peut-être, mais en tout cas, moi, je l'aime bien. Jul m'a beaucoup marquée par son histoire, par sa musique. Aussi, j'ai été à son concert l'année passée au Vélodrome. C'était très mémorable. Il s'engage beaucoup avec son public. On sent qu'il est aimable, même s'il est très, très... il a percé. Et du coup, j'ai choisi la chanson « Je fais mes bails » de Jul.
Le rap, je suis dedans, j'ai des dents, au moins qu'à gouler les gars. Les gars, je pense tout que je suis un gars de la rue, peu élégant. Je suis pas pressé, j'ai le temps, que des temps pleins, pas de mi-temps. Si ça suit le troupeau, il me reste plus qu'à compter les moutons. Je dégusse même pas le bouton, je tente les contacts sur le bottin. Le sud me donne des mots têtes, mais putain, je l'aime toujours autant. Je pense aux soucis le matin, non mais attends, avec ce que j'ai fait que moi, rien ne m'atteint. Tu m'aimes pas, papa, ta gueule, que tu es un trait, t'as fait la gueule. Que j'écris souvent, mais je m'applique. Je fais du rap, c'est quoi que ça fait qu'on vide dans un monde de dingue. Le petit porte le flingue, où ça tue, j'ai des fringues. Ça se met sous moi, j'dans les brings. J'fais des albums, vas-y, fais tourner la bombe. On va tout niquer par le don, on va faire trembler le vélodrome. Pourquoi ils me font les capones? Que des histoires bidons. Que tu m'étonnes, fais faire la prise de hip-hop. T'as raison que c'est mauvais, ça dit prochain virage, j'y pense. Que ça parle en traite, moi, je dis rien, mais j'y pense. J'crie un gros liberta, pour ceux dans la merde. Pour ceux qui changent pas d'équipe, comme deux slips qui trahissent pas l'omerta. Moi, j'suis comme Ragnar, ouais. J'sais que même la guerre t'a, c'est bien de créer des guerres, ouais. Jusqu'au jour où la guerre t'a. C'est grave quand même, t'oublies qui était là dans la merde, gros. Je te dis réellement ce que je pense le jour où je bois le verre, gros. Là, je me donne à fond, même si j'ai pas trop la femme. Quand je sais pas, je me la ferme. Pour le taf, ça met la femme. Depuis petit, j'tout le temps fais la diff, sans parler négatif. M'en foutant que méga kiff, les gars, qu'est-ce qu'il y a voulu me test, venez à 10. Même parasite, même toi paradis. Trop du dit qui remixe les histoires avec des homadis affirmatifs. J'suis moins émotif et j'donnerai pas de motif. J'suis pas mal fautif quand j'vois des mauvais comme dans les notifs. Et mon petit, tombera pas du ciel, la peur de Zanotti. Tu te plains tout le temps, mais t'as des habitudes, nourri, t'es bien loti. J'fais mes bails, laissez-moi là, laissez-moi là. J'fais mes bails, j'fais mes bails, laissez-moi là, laissez-moi là. J'fais mes bails, j'fais mes bails, laissez-moi là, laissez-moi là. J'fais mes bails, j'fais mes bails, laissez-moi là, laissez-moi là. En vacances, ça dégueule, ça veut des petits tailles. N'importe quelle fois, grande ou petite taille. Ce soir, je suis loin de vous dire goodbye. Je fais le mélange dans la petite aile. J'prends ma console et j'm'entends crap vers la capitale. Faut que j'investisse dans la pierre. Faut que j'fasse grossir mon capital. Ma carte vitale. J'aime tout le monde, que tu sois noir, j'y t'encore ça rapport Ital. Qui m'en veut, le jeu gambasse quand je suis au jol. J'suis un homme, ouais, j'écoute maman quand elle m'engueule. J'suis resté le même qu'avant, j'ai jamais joué un rôle. Quand je sais pas, je parle pas, j'peux faire fermer ma gueule. Je m'en vais, je m'en vais. Tu t'en fais. J'ai plus à m'emboucader. J'ai plus à côtoyer le danger. Fais tirer des bouts caramel. Mais tu fais rien. Laissez-moi là. En vacances, ça dégueule, ça veut des petites tailles. N'importe quelle fois, grande ou petite taille. Ce soir, je suis loin de vous dire goodbye. Je fais le mélange dans la petite aile. J'ai pas mis dit, tu en dépais. Mais je te console si tu en dépais. Là, je vais rien faire tout l'été. J'ai pas la tête à faire la fête. Ça veut tout bon et même ce que t'as pas. Je prends mon pain et je vous laisse les tapas. Thank you.
Dans ce podcast, on va parler de ton œuvre qui s'appelle « The Echo of Emotions », « L'écho des émotions » en français, qui est une œuvre numérique sous forme d'installation interactive qui questionne le rapport texte-image. Bon, pour qu'on puisse bien le visualiser, on a trois composantes dans l'œuvre qui sont en fait déterminées par des algorithmes. Donc, c'est quoi? C'est un texte, une image, ici de Twitter. On joue en fait avec les publications sur Twitter.
Oui, voilà, c'est bien ça. Alors, dans l'œuvre, on a trois éléments. On a une photo, un texte et un nom de profil.
Username, comme on
oui,
dit.
Oui, un username. Alors, dans cette œuvre, c'est le code, en fait, il ramène en temps réel ces deux éléments qui sont le texte et le username. Et puis, les photos, c'est moi qui ai sélectionné juste 20 photos pour... je vais expliquer ça après. Alors, dans cette œuvre, tu as un bouton que tu peux cliquer pour pouvoir lire les émotions des gens d'aujourd'hui. C'est, vu que c'est en temps réel, chaque jour, quand tu cliques sur le bouton, tu as de nouveaux tweets, vu que ces textes-là sont ramenés de Twitter en temps réel. Alors, ce qui se passe entre Twitter et mon œuvre, c'est que le code dans lequel il y a un algorithme chamboule ces données. Ce qui veut dire que quand il ramène un tweet avec le username, ils les ramènent ensemble. Mm-hmm. Mais avant que ça arrive à mon œuvre, il y a un chamboulement qui se passe, un random. Alors, le tweet, il va être mis avec un autre username et une photo aléatoire que j'ai choisie. Ça veut dire que dans cette œuvre, l'algorithme aussi, il crée des nouveaux profils, des faux profils un peu, où tu as un nom, un texte et une image qui ne sont pas ensemble de base. Tu ne vas pas trouver ces trois ensemble sur Twitter. C'est juste mon algorithme qui les remixe et les associe d'une façon aléatoire pour mon œuvre.
Parfait. Donc, c'est le jeu. On va élaborer plus longtemps aussi après, mais c'est le jeu entre sur le contraste, la dissonance entre vraiment les textes et les images, les usernames qui créent juste une identité qui est complètement fausse, qui n'existe pas.
Oui, oui, ça crée des identités fausses. Ça questionne l'auteur, bien sûr. Parce que, tu sais, sur Internet, tu peux trouver un tweet ou une phrase que tu aimes bien, que tu peux la réécrire, la retweeter. Tu peux même t'approprier des images qui ne sont pas les tiennes. Je peux mettre en photo de profil Nicki Minaj ou une photo de Pinterest d'une meuf que je ne connais pas non plus aussi. Mm-hmm. Ça peut arriver. Je peux mettre le username que je veux. Ça questionne l'identité, les rapports texte-image. Des fois, ce qui est drôle, je trouve aussi dans cette offre, c'est que tu as une image... d'une personne triste, et puis le texte qui est émis, c'est un texte hyper joyeux. Du coup, là, il y a de la dissonance aussi, où il y a cette absurdité un peu entre ces deux.
Puis qu'est-ce qui t'intéresse en général en Internet? C'est un vaste sujet, là. Pourquoi, c'est quoi, toi, ton rapport avec Internet?
Alors, moi, je m'inspire beaucoup des phénomènes culturels qui sont propres à Internet et les nouvelles valeurs que ça apporte. Et j'essaye toujours de mettre l'accent sur ces aspects cachés-là qu'on rencontre chaque jour, mais qu'on est tellement habitué qu'on ne les voit plus. Ils sont vraiment propres aux réseaux sociaux et à la culture web plus qu'à la vie réelle. C'est des choses qui ont été nées avec Internet, qui se sont développées avec les gens dessus, grâce aux réseaux. C'est une culture créée par les réseaux et par les utilisateurs en même temps. Et c'est ce qui m'intéresse, sur ces plateformes. Mais il y a aussi d'autres questions, bien sûr, qui sont, par exemple, le fait qu'on passe la plus grande majorité de notre temps sur ces endroits mêmes, qui sont Insta, TikTok, Twitter, peut-être pas autant qu'avant, bien sûr.
Ouais, Twitter, c'est...
c'est un peu ancien, oui, maintenant ça s'appelle X. Maintenant, ça s'appelle X, mais tu sais, j'ai choisi Twitter parce que c'était la plateforme la plus... c'était la meilleure pour que j'utilise pour cette œuvre-là. Ouais. En fait, j'ai utilisé Twitter pour pouvoir questionner ces choses, mais pas pour Twitter en tant que même, tu vois. C'est plus pour utiliser Twitter pour mon propos.
Mais aussi parce que Twitter, c'est aussi, je pense, contrairement à Instagram, c'est beaucoup plus, ou TikTok, c'est beaucoup plus dans les mots. On est beaucoup plus dans le texte. Oui. Le focus est mis sur le texte et non sur l'image, contrairement
oui.
aux autres.
Oui, il est mis sur la liberté d'expression, sur tu peux rentrer sur Twitter, dire ce que tu veux. Et aussi, moi, vu que mon œuvre, elle traite des émotions, quand tu ouvres Twitter et tu mets le mot « fil » dans tes recherches, tu peux, ou « émotion » ou « je me sens », tu peux avoir tous les tweets des gens qui ont utilisé ce mot. Et du coup, bah, c'est juste des gens qu'on ne connaît pas qui mettent comment ils se sentent aujourd'hui. Des fois, c'est des choses très intimes qui sont mises en ligne pour que tout le monde peut lire. Des fois, c'est des tweets que personne n'a vus, mais qui sont très intimes. Des fois, c'est des tweets que beaucoup de gens ont lus aussi. Il y a de tout, en fait.
Dans le cadre de ta maîtrise, tu m'avais dit que vous êtes encouragée aussi à faire des recherches théoriques sur les thèmes qui vous intéressent. Donc, vraiment, peut-être sortir du cadre artistique, mais vraiment d'aller lire des anthropologues, des sociologues, des internet, c'est quelque chose de tellement riche à analyser sa relation avec l'humain. Tu disais que les gens mettent des trucs tellement intimes, ben justement, c'est pour essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui pousse les gens à faire ça. Est-ce que c'est quoi que tu as appris quand tu as fait ce processus de recherche-là?
Alors, déjà, la culture internet, elle a été définie comme culture il n'y a pas très, très longtemps. Et je pense la chose qui m'a plus marquée dans mes lectures, c'est le concept d'hyper-réalité. En fait, l'hyper-réalité, c'est ni le virtuel et c'est ni le réel. En fait, c'est le mix des deux. C'est la réalité qui est augmentée par le virtuel. C'est pas la réalité augmentée. L'hyper-réalité, c'est le phénomène d'avoir le réel et le virtuel tellement entremêlés qu'on vit dans les deux simultanément. Et ça veut dire qu'on peut se connecter à Internet tellement rapidement, on peut rentrer, sortir, jouer, se balancer entre les deux sans vraiment une frontière limitée. C'est assez fluide l'entrée et la sortie de cet espace. Et ça devient cette dimension virtuelle où les interactions avec les autres, elle est indépendante de notre emplacement géographique, bien sûr, mais aussi ça nous impacte des fois plus que la vie réelle. Par exemple, je vais donner un exemple assez facile. Des fois, quand tu pars pour voir des vidéos, tes cinq sens, ils sont tellement stimulés que cette expérience-là, elle devient un peu plus forte qu'une expérience dans la vie réelle. Et ce phénomène d'hyper-réalité, il traite vraiment ça. Voilà. Le concept d'hyper-réalité suggère que certaines simulations peuvent sembler plus réelles que la réalité elle-même. C'est notre vie, en fait. Maintenant, on ne vit plus dans le réel ou dans le virtuel, on vit dans l'hyper-réel. C'est pas juste notre interaction avec ce monde-là. Quand nous, on y va, on parle avec les autres, on poste notre image aussi. Il y a aussi comment ces avancées technologiques-là, ils peuvent modifier comment nous, on interagit et on perçoit le monde autour de nous. En fait, ça a des influences mutuelles. On est influencé vraiment beaucoup par ces technologies. Et ça joue aussi sur la subjectivité de chaque personne aussi. Comment chaque personne peut relate. Oui, comment la personne peut s'identifier, mais aussi les interactions entre les gens. Ça nous motive beaucoup, spécialement, je trouve. Dans ma génération, quand on parle, quand on veut référer des blagues ou des choses, on utilise beaucoup les mêmes, on référence beaucoup les mêmes dans nos blagues. Ça devient vraiment une culture assez forte, assez prononcée. Des fois, je rencontre des personnes qui sont potes à des potes et je sais qu'ils connaissent le même que moi. Du coup, on fait la blague et il y a une personne que je ne connais pas qui me comprenne tout de suite.
C'est comme un nouveau langage.
Oui, c'est un nouveau langage et c'est aussi, ça montre combien ces technologies peuvent modifier notre regard au monde et notre appréhension du monde, mais pas que par les mêmes, bien sûr. C'est partout, les influences des réseaux. Il y a plein de choses qui jouent sur ça.
Je ne sais plus. ça peut inspirer aussi ben, beaucoup d'artistes à s'interroger sur cette culture-là. Tu as notamment été inspirée par un duo d'artistes que j'ai découvert grâce à toi, Eva et Franco Matest, qui, eux, travaillent sur la culture Internet. Est-ce que c'est quoi l'œuvre qui t'a le marqué de eux? Qu'est-ce qui t'inspire dans leur travail?
Alors, Eva et Franco Matest m'inspirent beaucoup dans leur travail. Aussi, leurs valeurs, leurs idéologies sont très proches de les miennes. La première œuvre que j'ai vue pour eux, c'est Ceiling Cat. Alors, c'est une œuvre qui a été prise d'un mème Internet. En fait, c'est le mème du chat qui est dans le plafond qui te regarde. Et dessus, c'est écrit « Ceiling cat is watching you masturbate ».
Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça?
Alors, avec ça, ils ont pris cette image du chat au plafond qui te surveille. Ils ont demandé à un homme hyper connu qui fait de la taxidermie pour un artiste italien. Et ils lui ont demandé de faire un chat en taxidermie qui ressemble au chat qui te surveille. Alors, ils ont fait cette chose, cette taxidermie. Et puis, dans cette œuvre, leur œuvre consiste en fait à trouer le plafond dans les musées et à mettre ce chat dedans. Et quand tu rentres dans la salle et tu regardes le plafond, en fait, tu vois une petite tête de chat qui te surveille dans un espace vide, blanc, comme ça.
Et de tout le monde qui connaît la référence au mime, oui, comprend tout de suite.
Oui, ceux qui connaissent la référence, ils vont tout de suite comprendre ça. Et en fait, pour les citer, ils disent... Alors ce chat-là qui est de base mignon, parce que les chats sont aimés par tout le monde, il observe les visiteurs de l'expo. Et pour citer Eva et Franco Matest, pour montrer aussi leur intention, pourquoi ils se sont appropriés ce chat hyper connu sur Internet, qui est devenu un mème, et l'ont utilisé en tant qu'œuvre d'art, qu'est-ce qu'ils veulent dire par ça? En fait, eux, ils utilisent ce chat dans le musée pour parler du pouvoir qu'Internet exerce sur nos vies. Et du coup, l'aventure de ce chat dans le monde réel, puisqu'ils l'ont pris d'Internet, ils l'ont enlevé de l'espace numérique pour le mettre dans l'espace réel, met en lumière le fait inquiétant que chacun d'entre nous est accompagné, bien sûr, par son propre double numérique qui est assemblé à partir de nos données, de nos photos, de tout ce qui se trouve en ligne. Et c'est comme ça qu'Eva Franco Matest transforme un chat mignon en une figure qui nous fait peur un peu.
Ben, ça fait énormément de sens avec ce que tu disais un peu sur l'hyper-réalité, que ces deux, le monde d'Internet et le monde réel, fusionnent aussi. Parce que ça, et ça, c'est une façon, je pense, de l'illustrer, de le prouver.
Bien sûr, c'est hyper créatif ce qu'ils font. Je trouve ça très intéressant de pouvoir s'approprier comme ça un élément de la culture Internet, qui est une culture très populaire, et pouvoir le transformer pour le mettre dans un musée, pour soutenir un propos qui est plus profond que juste une blague sur Internet.
C'est comme une œuvre d'art numérique. Normalement, les œuvres d'art numériques sont plus accessibles justement par le numérique, alors que là, c'est comme si le numérique avait franchi, était sorti de l'ordinateur.
Oui, voilà. Ils aiment bien travailler sur ces choses.
C'est super intéressant, mais en plus, bon, moi, je ne dis pas les mèmes, on dit les memes.
Oui, on dit les memes.
Non, mais c'est plus pour que les gens qui nous écoutent comprennent qu'on parle la même chose.
Oui, oui, c'est bien ça.
Mais ça, c'est un territoire qui est aussi en théorie, dans les études plus académiques, qui est vraiment qui commence à être défriché. C'est pas quelque chose qui est hyper étudié, non?
Alors maintenant, ça devient de plus en plus étudié, mais ça a été légitimisé par Limor Schiffman une dizaine d'années, depuis 2013.
OK, quand même, ça fait quand même 10 ans. Puis est-ce que, mettons là, tu parlais de Eva et Franco Matest qui, eux, s'approprient ces codes-là. Est-ce qu'il y a d'autres œuvres aussi comme que t'as pu rencontrer qui ont d'autres façons de traiter le sujet?
Oui, bien sûr. En fait, mon œuvre « The Echo of Emotions », elle a été inspirée par un petit livret qu'un artiste qui s'appelle Corey Archangel a fait. Et c'est un petit livret où il ramène des tweets aussi. Mais en fait, lui, au lieu de les exposer numériquement, il les expose dans un petit livre où tu peux juste lire comme tu lis un livre, des petites tweets des gens, avec des fois il met des petits dessins que lui il fait. En fait, j'étais inspirée par ça pour mon œuvre. Même si Twitter reste une plateforme sociale un peu ancienne par rapport à TikTok.
Ouais. Attends, c'est un livre dans lequel on trouve un grand nombre de tweets qu'il a juste imprimés?
Oui.
OK.
Oui, oui, c'est exactement ça. Tu trouves des tweets.
Est-ce qu'il y a aussi un jeu sur le rapport texte-image?
Non.
OK.
Non, non. C'est juste textuel. Il ramène pas d'image. Il ramène juste le nom de l'utilisateur et le tweet.
OK.
Il les chamboule pas, il n'y a pas de mix entre eux. C'est vraiment juste des tweets qu'il ramène, qu'il aime bien et qu'il met dans ce...
Il n'y a pas un effet comme toi dans ton cas. C'est vraiment, tu joues sur la dissonance entre la différence de l'état exprimé, I feel, versus le username, l'image. Pourquoi d'ailleurs avoir choisi de tous les verbes là, que tu aurais pu prendre dans un champ de recherche, pourquoi avoir pris « I feel »,« je ressens » C'était quoi qui te faisait avoir envie de parler de l'émotion spécifiquement?
Mm-hmm. Ce qui m'a donné envie de parler de l'émotion, c'est que des fois, en fait, je me lève le matin et je me sens pas bien. Je me dis « je me sens pas bien aujourd'hui, j'ai rien envie de faire ». Je me sens peut-être anxieuse ou je sais pas, des fois j'ai des émotions le matin que j'ai pas envie d'avoir. Et le fait de savoir que d'autres gens aussi se sentent pas bien, ça me fait sentir bien.
Ouais,
je sais pas si tu...
Ouais, je comprends.
Tu arrives à... En fait, tu te sens pas seule. Tu te sens pas... Ah, y a que moi aujourd'hui qui me sens pas trop dans le mood de faire des trucs. Quand tu vois que en fait, t'es pas seule et c'est normal, les gens, ils en parlent...
Puis, en fait, ça, tu voulais avoir aussi une fenêtre, montrer à quel point aussi Internet, ça peut être une fenêtre vers l'intime, vers une façon d'ouvrir littéralement genre sa vie privée pour que tout le monde le voit, dire « I feel ». Sur Twitter, c'est pas comme dire « I feel » dans son journal intime, mais là, c'est comme si, comme tu disais, il y a plus de frontières entre les deux. Ton journal intime, ça peut être un peu ton Twitter, des fois.
Oui, alors moi, j'ai jamais utilisé Twitter comme mon intime. À vrai dire, j'ai jamais utilisé Twitter. C'est pour ça que je te disais, je l'ai utilisé pour mon propos, mais moi, j'ai Twitter, c'est même pas mon prénom, c'est même pas ma photo. Et je l'utilise pas vraiment pour m'exprimer. Je l'utilise juste pour faire des blagues ou des commentaires drôles.
Tu vois, c'est encore... Tu utilises l'anonymat. Ça te permet d'avoir une utilisation qui est... d'avoir un avatar, une autre personne qui n'est pas toi, qui...
Oui.
De t'approprier des choses, comme tout ce que tu avais dit plus tôt. Et lorsque tu as... Bon, il y a quand même tout un aspect technique aussi là, dans ce travail-là. Tu dois créer un algorithme qui joue sur... en temps réel en plus, là, sur ce que les gens écrivent chaque jour. Comment ça t'a procédé pour... est-ce que c'est un truc à l'école dans lequel tu étais accompagnée pour créer vraiment un coding?
Oui, on avait des cours de code à la fac. Et en fait, le code, il n'est pas très compliqué pour cette œuvre. Il y a bien sûr l'algorithme qui est aussi présent sur Internet. C'est pour ça que j'ai eu l'envie d'utiliser un algorithme dans cette œuvre-là, pas juste de ramener des tweets. OK, Corey Archangel, il a ramener des tweets sans y toucher. Mais vu que là, on baigne aussi dans l'algorithme sur les réseaux sociaux, j'avais envie d'utiliser l'algorithme pour mon œuvre. Alors, la code de mon œuvre, il fonctionne vraiment très différemment que celui des réseaux sociaux, ça n'a rien à voir. Mais c'était juste pour aussi avoir un élément en plus que juste moi qui fais le code. Je voulais vraiment avoir cet algorithme qui a cette ligne de code qui s'appelle math.random. Et c'est grâce à ça que ça se chamboule, que ça se mélange.
OK.
Et j'ai envie d'avoir ça aussi dans l'œuvre.
Puis chaque jour, on peut y accéder sur Internet? Comment ça fonctionne?
Mon œuvre, elle n'est pas encore sur Internet. On ne peut pas accéder en ligne. Je l'expose seulement.
C'est ça, OK.
Je ne l'ai pas mis en ligne. J'y pense, je ne sais pas. C'est à voir.
D'accord. Puis là, mettons dans un contexte d'exposition, tu l'as présenté dans le cadre de l'exposition de Alon.
Est-ce que tu peux aussi introduire c'est quoi Alone, vu que c'est aussi un projet d'association dans lequel tu participes?
Alors moi, j'ai rejoint Alone en 2022. Alone, c'était une association vraiment très récente. Elle était formée par deux amis à moi. Je les ai rejoints. En fait, le but d'Alone, c'est un peu d'accompagner techniquement des artistes dans leur œuvre. Mais aussi, on peut les accompagner dans leur démarche artistique. Jusqu'à présent, on a fait juste un projet dans lequel j'ai pu exposer aussi. Et ça s'appelait l'intimité d'un jardin qui était deux phases. La première phase, c'était une phase de résidence où on a travaillé avec des lieux, comme par exemple la Fabulerie, la Friche de la Belle de Mai. Et on a accueilli des artistes en résidence, on les a aidés sur leurs projets s'ils avaient besoin, bien sûr. Et puis la deuxième phase, c'était la phase d'exposition, du coup la sortie de résidence.
Et c'est là-dedans que, dans ce cadre-là, que tu as présenté pour la première fois à un public, The
oui.
Echo of Emotion.
Oui, c'est la première fois où je montre cette œuvre, pas juste à mes camarades de classe ou à mes profs ou à ma famille, c'était où je la montre à un grand public. Je ne savais pas à quoi m'attendre, je ne sais pas si les gens vont comprendre ce que j'essaye de dire, vu que je ne serai pas toujours là à expliquer. Le cartel, il est assez petit. Je ne vais pas écrire un énorme texte non plus. Et c'était intéressant de voir comment les gens expérimentent cette œuvre-là.
Elle était présentée comment?
Alors, je l'ai présentée d'une façon un peu simple. Pour l'instant, je la présente sur un écran d'ordi, avec une souris. Et cette souris, elle est posée sur un livre. Et en fait, le livre, c'est pour juste symboliser les pages, des pages de texte, comme les pages sur le web. À chaque fois que tu cliques, t'as un nouveau tweet, c'est comme si tu tournais les pages, c'est comme si tu peux prendre enfin le temps de lire ces tweets seuls, puisqu'ils sont enlevés, ils sont mis seuls. Il n'y a pas juste le fait que ça questionne bien sûr l'identité et tout ça, mais aussi le fait que ce tweet, on l'enlève de la masse du réseau social et on le met seul. Et là, tu peux passer autant de temps que tu veux à lire ce tweet.
Il est enlevé de son contexte
bien sûr,
original, en fait.
Oui. Oui, mais c'est ça.
Ça fait aussi référence, j'ai l'impression, à l'œuvre dont tu parlais, du livre
oui.
matériel.
Oui, 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 c'est ma première inspiration pour cette œuvre.
Tu parlais de comment les gens, tu te demandais comment les gens allaient interpréter, comment mm-hmm. tout le monde utilise Internet, mais d'être confronté à une autre utilisation qui est dans un cadre vraiment disruptif, tu sais, c'est pas aller sur Twitter dans la vraie vie sur son téléphone, c'est d'avoir accès comme à une espèce de jeu de dissonance. Comment les gens réagissaient, comment les gens l'interprétaient?
Alors j'ai eu plusieurs interprétations et plusieurs réactions. J'essayais d'être neutre un peu vis-à-vis des commentaires. Mais en général, j'étais assez surprise puisque la plupart des gens, ils aiment bien quand ils savent de quoi ça parle. Ouais. Mais quand ils ne savent pas trop, ils pensent juste que c'est un slideshow. Et c'est ce qui est drôle. Ils pensent que c'est juste moi qui ai écrit des phrases avec des usernames et juste j'ai mis une photo au pif. Et en fait, ils lisent quelques phrases et ils ne comprennent pas trop c'est quoi. Parce que mon interface, elle ne ressemble pas vraiment à Twitter. Et c'est fait exprès que ça ne ressemble pas. Il y a des gens qui ont passé beaucoup de temps dessus, vraiment. Il y a plusieurs personnes qui revenaient. En fait, ils faisaient le tour de l'expo et puis revenaient à mon œuvre pour voir encore ce qu'ils peuvent trouver. Parce que des fois, tu as des associations texte-image qui sont assez drôles.
Comme quoi, par exemple?
Alors, il y en avait plusieurs. Je pense que je t'ai parlé de celui qui est la photo triste avec le texte joyeux. Il y avait aussi une qui était pas mal. C'était une photo de... une photo, je pense, d'un mème. Je ne sais pas où je l'ai trouvée en ligne, cette photo, mais c'est juste une photo d'un buste. Mais genre, c'est une meuf qui tient ses seins, comme ça, avec ses deux mains, et elle a de longs ongles. Et en fait, ça s'est associé avec une phrase qui dit quelque chose du genre « I only feel this way when I'm high ».
Puis les images, d'ailleurs, t'as 20 images que t'as prises, que tu t'es appropriées sur Internet. Puis c'est, comment tu les choisissais? T'essayais de créer comme un éventail d'émotions, justement, d'aller dans des contrastes?
Oui, j'ai essayé de ramener des images qui peuvent être utilisées par tout le monde. Par exemple, des images que je tire des mèmes. J'ai ramené quelques images de Pinterest et j'ai aussi voulu ramener comme des photos de profil, mais je ne voulais pas des personnes qui existent. Du coup, je me suis servi d'un site qui s'appelle This Person Does Not Exist, qui est un site sur lequel deux intelligences artificielles créent des portraits qui ne sont pas vrais. Mmh. Et de ce site, j'ai pu ramener quelques photos et c'est ces photos-là que tu vois en fait des faces. Des fois, il y a des visages souriants, des fois, il y a des visages juste neutres ou un peu plus tristes. Ça dépend de l'intelligence artificielle, comment elle a dessiné, comment elle a créé la photo, bien sûr. Mais la plupart sont souriants, mais c'est hyper drôle de voir comment, via mon œuvre, l'algorithme, il met du random. Mais des fois, le random, il est drôle. Des fois, ça a un sens. Des fois, tu as une photo vraiment d'un visage neutre. Et le texte dit, par exemple, « I feel anxious ». Et t'es en mode, « Ah, ça se colle bien, ça ». Et des fois, tu as des choses qui ne collent pas. Mais tout est intéressant. C'est spécialement à Arles, quand on l'a exposé là-bas, les gens, ils ont passé beaucoup, beaucoup de temps sur mon œuvre. J'ai eu plein de retours positifs, ce qui est très bien.
Mais oui, en fait, je pense que aussi quand on parlait des memes, ça me faisait penser à ça quand tu disais, ça fait du bien de voir que on n'est pas les seuls à voir qu'on peut voir comment les autres se sentent. Puis je pense que les memes, c'est ça aussi qui fait du bien, c'est que tout le monde peut relate, comme tu as dit. Tout
oui.
Tout le monde peut s'identifier à une émotion. Puis si on est comme 1 million de personnes, internautes, à liker quelque chose qui parle de l'anxiété, on est là à se dire...
Est-ce que toute la population est anxieuse?
Mais c'est ça. Puis ma dernière question, c'est en fait un peu sur... pourquoi, tu sais, le titre « The Echo of Emotions », c'est venu comment dans le processus?
Alors, je voulais un titre qui montre bien le fait qu'il y a... que ces émotions, ils sont repris par l'algorithme, ils peuvent être mis plusieurs fois aussi dans mon œuvre. Des fois, quand tu recliques sur le bouton pour voir d'autres tweets, tu peux revoir un même tweet que tu as déjà vu dans la même journée, bien sûr, mais associé à un autre texte, à un autre username et à une autre image. Et en fait, ça m'a fait penser à l'écho. En fait, quand tu es devant une montagne, tu parles, en fait, la montagne, elle redit ce que tu dis. Et s'il y a une autre montagne aussi, ça redit. En fait, c'est comme, par exemple, si toi, tu mets une photo ou tu mets un texte que j'aime bien, je le reprends. En fait, c'est comme moi, je suis ton écho.
Ouais, mais je comprends, c'est un peu quand tu partages du contenu, ça va super loin sans que tu saches jusqu'où ça se rend aussi.
Oui, ça peut s'éteindre après, ça peut ne pas... ça te revient.
C'est vrai. Parlant d'écho, on va aller en écho musical.
Allez.
Transition, merci. Pour ton premier choix, tu as choisi un icône marseillais, Jules. Et là, pour ton deuxième choix musical, tu es allé vers une icône libanaise, Férouz. Est-ce que tu peux nous dire quelle chanson tu as choisi ou peut-être aussi présenter qui elle est?
Bien sûr. Alors, Férouz m'a accompagnée depuis mon enfance. C'est bien sûr une icône libanaise qui a marqué plusieurs générations. Elle a marqué la génération de mes parents. Mes grands-parents l'aiment beaucoup aussi. Ma génération aussi, on écoute encore Fairouz. Tout le monde écoute encore Fairouz, bien sûr, au Liban. Elle est encore vivante en plus.
T'as choisi quelle chanson?
Alors, j'ai choisi une chanson très connue. Comme ça, je peux la présenter... avec une de ses plus importantes chansons, j'ai choisi Ana la Habibi. Ça veut dire je suis pour mon amoureux.
حبيبي وحبيبي إلي أنا لحبيبي
Après cette belle chanson, Joël, comme tu le sais, on va parler d'imposture. On en a un peu parlé en préparant l'émission que l'univers d'art numérique est assez masculin, même dans le cadre de tes études. Est-ce que ça, c'est une dynamique qui peut contribuer à justement se sentir imposteur, de créer dans ce domaine-là, ou pas du tout? Comment tu le vis, en fait?
Alors, vu que je suis encore nouvelle un peu, Je ne sais pas trop comment je me situe encore, encore un peu nouveau. Mais c'est vrai que, pas juste peut-être dans l'art numérique, dans l'art en général, la place pour les hommes, elle est présente. Même si tu pars dans des musées, le plus grand nombre d'artistes, c'est des hommes, que ça soit dans le numérique ou dans le plastique.
Dans le cadre de ton master, est-ce que c'est assez paritaire au niveau des gens qui étudient là-dedans?
Oui, les étudiants, oui, ça va. En tant qu'étudiant, il y a de tout. Après, je ne sais pas, après les études, ce qu'ils vont faire, s'ils vont rester dans l'art ou pas. Mais je remarque bien sûr à la fac que le plus grand nombre de profs, c'est des hommes.
Est-ce que tu penses que ça joue un peu sur... Ben, en fait, est-ce que toi, tu te sens imposteur ou est-ce que c'est quelque chose qui t'habite des fois dans ta création ou ça peut ne pas être le cas? Ça serait aussi très bien, génial.
Oui, dans ma création, en fait, j'y pense pas du tout. À la fac, j'y pense un peu quand je vois qu'en fait, la plupart de nos profs sont des hommes, mais... Ça m'affecte pas vis-à-vis mon travail. Mm-hmm. Ça m'affecte plus vis-à-vis du fait que c'est dommage. Mm-hmm. Tu vois, je trouve que après je me demande peut-être que les femmes elles ont pas eu envie de continuer dans ce domaine numérique ou j'ai aucune idée. J'ai jamais demandé au fait à ceux qui ont arrêté ou ceux qui n'ont pas fait. Mais c'est vrai que ça pose plusieurs questions, mais pas juste bien sûr dans le numérique comme je t'ai dit dans l'art en général. Je pense que il y a plus d'artistes hommes que femmes.
Est-ce que dans le corpus qu'on vous enseigne en art numérique, est-ce que c'est majoritairement des artistes hommes que vous voyez ou...
Mm-hmm. Oui. Mais c'est dans tout, non?
Ben, je sais pas, ça dépend aussi des écoles.
C'est vrai.
De qui... C'est un choix politique aussi là, de parler de quel artiste, à quel corpus présenter. Mais après, bon, c'est ça.
C'est vrai que... C'est vrai qu'il y a plus d'artistes hommes que femmes dans le corpus que j'ai étudié. Bah, en fait, dans mon travail, ça ne m'handicape pas. Okay. Oui, dans mon travail perso, tu vois, mais quand je présente à la fac, bien sûr, j'ai peur. j'ai bien sûr cette petite peur quand ça vient à la présentation. C'est plus lié à quand je me présente à moi-même et ma place que quand moi je crée.
OK. Fait que ça, c'est pas un frein, en fait, à la création.
Non, c'est pas un frein à la création, c'est plus un frein à mettre en avant, des fois. Juste par peur. En fait, je le traque, tu vois.
Là, tu termines ton master. Cette année, tu rédiges un mémoire. Et ensuite, c'est quoi les projets que tu as par rapport à la création en général ou aux études?
Alors, je finis mon master cette année et je compte, j'espère, pouvoir trouver des résidences d'artistes où je peux continuer à élaborer mes projets et continuer. J'ai plein d'idées que j'espère pouvoir avoir le temps de développer des projets d'œuvres. Mais après, ça reste une question de visa, vu que je suis libanaise. C'est sûr qu'après mon master, je veux continuer ma pratique artistique et j'espère pouvoir trouver des résidences, bien sûr, dans lesquelles je pourrais faire ça.
Il y a beaucoup de résidences, mais pour le numérique en France ou...
Alors ça reste une question qui est... que je me demande parce que je ne sais pas si je veux faire que du numérique ou j'ai envie d'aller un peu plus plastiquement. J'ai des idées d'œuvres plastiques. Je ne sais pas pourquoi les idées me viennent plastiquement en ce moment. Mais je sais que j'aimerais explorer les deux. Pas juste être dans du numérique ou dans du plastique. Faut que j'aime bien les deux côtés.
Faire un peu comme Eva et Franco Mattes qui oui. font le pont entre les deux.
Oui, oui. Et eux, ils travaillent un peu sur les deux. Ils ont d'autres œuvres qui sont purement numériques et ils ont des œuvres qui sont plastiques.
À suivre pour eux et à suivre pour toi.
Merci.
Merci d'avoir accepté mon invitation, Jay.
Merci à toi. Merci pour l'accueil et pour cet entretien.
Vous venez d'écouter le 7e épisode de la 3e saison des Impostures, enregistré dans le studio de la Briqueterie à Marseille. Un merci spécial à Anna Paola Bernard, directrice artistique de la Briqueterie, pour son soutien au projet. Les Impostures est un podcast indépendant réalisé et produit par Sidonie Gaulin à l'aide d'une équipe basée à Montréal, Alice Zérigny-Lereste à l'illustration, Maëva Gauthier-Chartrand au graphisme et Antoine Desrochers-Godin à la composition sonore. Merci à celles et ceux qui nous écoutent. On vous revient bientôt pour le dernier épisode de la saison.